La symphonie, sans aucun doute le sommet de la musique orchestrale. Mais à mon époque, la symphonie n'était pas encore ce qu'elle deviendrait plus tard. Surtout en France, ce genre n'était pas encore vraiment établi à mon arrivée. Cela n'allait pas tarder à changer. À ce sujet, je tiens à souligner avec insistance, mais avec toute l'humilité requise, que ma modeste contribution à l'histoire de cette première symphonie française est encore largement sous-estimée. Et cela doit être corrigé de toute urgence. Ce que j'ai écrit ne vaut-il pas autant que mes contemporains parisiens ? Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. Fondamentalement, vous devez savoir que la symphonie est un phénomène européen. Les Italiens ont été les précurseurs lorsqu'ils ont commencé à jouer une pièce orchestrale en guise d'ouverture d'opéra au début du XVIIIe siècle. Une telle pièce courte était appelée « sinfonia » en Italie, littéralement « ensemble de sons ». En français, on parlerait d'une « ouverture » ou d'un « prélude ». Rapidement, des amateurs talentueux, souvent des médecins, des pharmaciens, des comptables et des commerçants, se sont réunis en association pour jouer ensemble à intervalles réguliers. Ils engageaient toujours quelques professionnels pour maintenir la discipline et maintenir un niveau décent. Ils ne le faisaient pas seulement pour leur plaisir. Quelques fois par an, ils donnaient un concert à but caritatif et utilisait le répertoire de « symphonie » entendu au début de ses opéras. Ces associations d'amateurs se désignaient souvent comme « amateurs d'harmonie » ou « philharmonie ». Au fil du temps, c'est là que le public est entré en contact pour la première fois avec la musique symphonique. Il n'a pas fallu longtemps pour que les compositeurs s'emparent de ce genre et écrivent spécialement de la musique pour orchestre pour ces associations. C'est ainsi que j'ai moi-même découvert la culture symphonique. À la Wallstraat à Bruges, où la confrérie de concerts donnait des concerts et où mon frère et moi nous nous rendions presque chaque semaine. Nous jouions les premières symphonies italiennes de Sammartini, mais aussi celles de Johann Stamitz, qui était un véritable phénomène dans ce domaine. Stamitz était l'homme qui a développé la symphonie au nord des Alpes et a posé les bases de la symphonie allemande. À la fin de sa vie, Stamitz est même allé à Paris, où il a été accueilli en tant que grand innovateur musical et où les Parisiens ont découvert la culture symphonique de première main. Il est devenu la coqueluche de toute l'aristocratie parisienne. Stamitz est décédé en 1757. Bien sûr, tout le monde l'a pleuré à la hauteur de sa célébrité. Sa mort a été plutôt inattendue. Le monde de la musique a réalisé que le marché était maintenant ouvert. La symphonie est devenue, l'espace de quelques années, le genre par excellence. Elle était maintenant pratiquée dans toute l'Europe, y compris à Bruges et à Paris. L'été 1765 a vu la publication de mon propre opus 1, issu des presses parisiennes. Il s'agissait d'un recueil de 6 symphonies publiées par la petite maison d'édition Moria. Elle était dédiée à Louis-Jean-Baptiste Colbert, arrière-petit-fils du grand Colbert, qui avait été ministre à l'époque de Louis XIV, le roi Soleil. Colbert était le marquis de Saint-Gelais, et je l'ai rencontré via son épouse, à qui je donnais des cours de chant. Un autre recueil de 3 symphonies que j'ai fait publier en 1771. Il était dédié à François-Alexandre Frédéric de la Rochefoucauld, duc de Liancourt. Cet aristocrate, assez excentrique, allait bientôt devenir l'un des politiciens les plus puissants de sa génération. Il possédait une magnifique résidence sur la rive sud de la Seine. En tout, j'ai ainsi réussi à publier pas moins de 14 symphonies à Paris. Et j'en suis très fier. Mon ami et concurrent principal ici à Paris était Gossec. Il a publié à la même époque 24 symphonies. Personne ne faisait mieux que lui. Il s'appelait François-Joseph Gossec. Lui aussi était originaire de Flandre. Du moins, il est né quelque part dans un village des Ardennes, mais a grandi à Anvers, où il a appris son métier. Il s'est d'ailleurs également marié avec une anversoise. Il était 7 ans plus âgé que moi et est arrivé à Paris avant la guerre. Cela signifiait qu'il avait pu travailler sous le légendaire Jean-Philippe Rameau. Quand Stamitz est venu à Paris, il a également travaillé pour lui. Ah, comme je suis jaloux de ça. Jouer avec ces hommes-là, ça devait être un plaisir pour les yeux et les oreilles. Gossec est devenu un musicien et compositeur exceptionnel, et j'admets bien humblement que mes premières symphonies ont été quelque peu inspirées par lui. C'était un homme aimable, un peu laconique et avec un sens de l'humour sec, mais dans sa musique, il était phénoménal. En fait, nous, jeunes musiciens, l'admirions, surtout quand il a fondé à Paris une grande société musicale sous le nom de « Le Concert des Amateurs ». C'était un orchestre de plus de 70 musiciens, dont la plupart étaient des amateurs, comme son nom l'indique, mais où figuraient également de nombreux professionnels. Cet orchestre a atteint un niveau tout à fait respectable et cette philharmonie, sur le modèle italien, était presque dès sa création le principal lieu où l'on pouvait entendre des symphonies de qualité à Paris. J'ai flairé ma chance et j'ai rapidement profité de mon amitié avec Gossec pour faire jouer mes œuvres là-bas. Jusqu'à présent, mes symphonies avaient été interprétées par des musiciens que j'avais moi-même choisis et qui étaient rémunérés par les aristocrates qui m'employaient. Le plus souvent, l'orchestre ne comptait pas plus de 15 à 16 musiciens. C'était en fait bien trop peu. Gossec voyait bien plus grand. C'était donc ça l'avenir. En 1769, l'année où le concert des amateurs a donné ses premiers concerts, Gossec a écrit ses 6 symphonies à grand orchestre. Ce fut un triomphe et il se hissa au firmament des compositeurs les plus en vue. Je me suis donc remis à ma table de travail et j'ai essayé d'écrire des œuvres qui pourraient rivaliser avec les symphonies de Gossec. Le résultat s'est concrétisé par la publication de mon opus 4, qui est sorti des presses en mars 1771 sous le titre de 3 symphonies à grand orchestre dédiées au duc de Liancourt. J'espérais pouvoir les présenter au public français par l'intermédiaire du Concert des Amateurs pour conquérir Paris. Oui, parfaitement, conquérir Paris. Un petit gars de Bruges pouvait-il le faire? Eh bien, pourquoi pas? Si Gossec en était capable. Une anecdote amusante. Gossec publiait à cette époque sous le nom de Gossec d'Anvers. Son origine flamande, et se faisant passer pour telle, était apparemment un élément exotique à Paris. C'était une expression du terroir flamand, de la couleur locale, et en plus, une preuve qu'il était fier de ses origines. Cela n'a pas entravé son succès. Alors pourquoi pas moi? Étais-je moins fier de mes origines? N'avais-je pas oublié ma ville et ses habitants? Les concerts dans la Wallstraat, mes frères, le Carillon et ma marraine qui m'avaient aidé jusqu'à Paris. Eh bien, c'est pourquoi j'ai aussi proclamé fièrement mes origines flamandes sur mes partitions. Sur les pages de titre de toutes mes symphonies, j'ai fait noter le nom du compositeur comme « Lemans de Bruges ». Succès assuré, ou du moins, je l'espérais.